L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à tous, je suis avec Nina Goss. Bonjour Nina.
Bonjour.
Et Nina, elle est avocate en propriété intellectuelle. Tu es spécialisée sur les nouvelles technologies et donc toutes les problématiques qui ont lien avec la donnée personnelle.
Exactement.
Et tu es dans un cabinet qui s'appelle le cabinet De Gaulle, Florence et Associés.
Exactement.
Voilà. Et on va parler des données personnelles justement et de la GDPR évidemment. Donc je pense que tout le monde en entend plus ou moins parler. Alors, les marketeurs, évidemment, en entendent beaucoup parler, travaillent plus ou moins dessus. Je pense que les gens ne comprennent pas nécessairement plusieurs choses. D'abord, un, pourquoi ils devraient s'intéresser à leurs données personnelles. Les impacts de la GDPR. Et en plus, en particulier, quand tu es une petite boîte, comment tu fais pour t'en sortir? Alors, la première question que j'ai pour toi et qui, moi, on me la pose régulièrement, c'est... Mais pourquoi je devrais m'intéresser à mes données personnelles? Parce que finalement, j'ai pas grand chose à cacher. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on nous dit. Pourquoi les gens devraient s'intéresser à leurs données personnelles?
C'est une très bonne question. Et ça introduit très bien le sujet RGPD ou GDPR, puisque on va pas s'intéresser à une réglementation qui protège nos données si on estime qu'elle mérite pas une protection. Alors pourquoi s'intéresser à nos données? Si on peut lire beaucoup de choses sur ce sujet, on lit aussi beaucoup, t'as déjà dû voir cette expression que la donnée finalement c'est un peu le pétrole, le nouveau pétrole, et que tous les modèles économiques actuels et les business models se ressentent finalement sur une exploitation de la donnée. Et donc forcément, à partir de là, ça veut dire que les pratiques vont vraiment de plus en plus consister à personnaliser les services, à profiler les personnes, à faire des personnes finalement des produits. J'aime pas forcément ce terme parce que je pense pas que c'est parce qu'une boîte va utiliser les données d'une personne qu'elle va forcément pas avoir de considération pour celle-ci et la réduire à ses données. Mais c'est vrai. Jusqu'ici, c'est vrai que comme on voit un peu, entre guillemets, pour beaucoup d'entre nous, que les avantages qu'on peut tirer de ça, bah finalement, on est prêt à donner nos données, et même à en donner beaucoup. Là où ça peut être plus problématique, et où souvent, je sais qu'on en avait parlé une fois, les personnes le voient comme quelque chose de plus intrusif, c'est notamment dès que ça va toucher des sujets un peu sensibles, comme ma santé, comme mon assurance, ou d'autres sujets. Donc si on prend un exemple là-dessus... Aujourd'hui, tu as certaines compagnies d'assurance qui vont te proposer de moduler tes cotisations en utilisant un objet connecté, par exemple, qui va montrer que tu es un bon conducteur. Jusque-là, tant mieux, c'est dans mon intérêt. Tout ça est très transparent, j'y ai consenti. Mais si finalement, demain, c'est quelque chose qui devient généralisé, normalisé, si toi... tu ne veux plus finalement que ça soit fait, est-ce que tu vas pas au contraire être exclu, entre guillemets? Donc ça, c'est un exemple, par exemple, qui montre que la donnée peut finalement...
se retourner contre toi.
Se retourner, entre guillemets, contre toi. Après, il y a plein d'autres exemples. Il y a les cyberattaques qui peuvent montrer qu'il faut s'intéresser à ces données et imposer des mesures de sécurité fortes sur toute organisation qui va traiter des données. Tu peux, on n'est pas obligé de penser non plus qu'aux entreprises. Il y a aussi les données, comment elles sont traitées par les organisations publiques, par l'État. Et c'est loin, malheureusement, d'être le public qui est forcément le plus exemplaire. On a pu le voir récemment avec une petite vidéo YouTube qui nous a été imposée à visualiser avant notre déclaration d'impôt et qui a permis à Google de collecter des données. Donc voilà, c'est autant de sujets qui font qu'il faut s'intéresser. Il faut pas avoir peur. Moi, j'aime pas du tout avoir un discours alarmiste sur ces sujets. Je pense qu'il faut vraiment, pour les personnes, être lucide, comprendre, ce qui est pas simple, parce qu'on est vite dans du jargon juridique, etc. Et pour les organisations qui traitent de la donnée, d'être responsable.
Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire peur sur la donnée. En disant, bah, si c'est gratuit, ça veut dire que c'est toi le produit, etc., etc.
Exactement.
Bon, voilà. Et en même temps, on peut pas nier que c'est important. Il y a l'exemple que tu prenais pour les assurances, mais on pourrait imaginer également, et on le sait, que ce soit ton iPhone ou que ce soit tous les assistants vocaux à la maison, que ce soit Alexa, Google Home ou Google Assistant, pardon, ou l'équivalent chez Apple, et ça enregistre globalement tout ce que tu racontes chez toi. Donc, si par exemple tu es en train je sais pas, de parler d'une rupture amoureuse ou d'un problème de santé, ou on peut imaginer, alors c'est pas le cas aujourd'hui évidemment, mais on peut imaginer que cette donnée, parce que c'est de la donnée aussi, hein, finalement, une fois qu'elle est retraitée, elle soit revendue à une assurance, à des tierces parties qui sont prêtes à les acheter.
On peut imaginer mille cas d'usage et c'est toujours dur de parler de manière générale. Moi, je pense toujours qu'il faut rester sur des cas d'usage. Mais effectivement, il y a plein d'exemples. Internet des objets multiplie les opportunités d'exploiter de la donnée. Les voitures connectées, les smart cities de demain, c'est un enjeu que je trouve génial et j'espère qu'on sera sur des villes toujours plus smart. Mais il faut forcément que ça soit protecteur de la vie privée. Et finalement, c'est vrai que souvent, on pense tout de suite à l'exploitation des données online, mais elle est de plus en plus offline. Ça peut être aussi les expériences retail avec une exploitation de la donnée, de la reconnaissance faciale à l'aéroport. Enfin, les cas d'usage sont très nombreux et c'est pour ça que finalement il faut s'en soucier. Et l'avantage, c'est que en Europe, on a quand même cette sensibilité. Je ne dis pas que les États-Unis l'ont pas. Je pense qu'il y a juste une différence d'approche. C'est, trop souvent, il y a un raccourci qui est fait en disant en Europe, on protège la vie privée. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Alors, avec Trump, c'est moins le cas, c'est sûr. Mais en soi, il n'y a pas une différence vraiment pour moi philosophique. Mais il y a quand même une différence d'approche. Et en tout cas, c'est vrai qu'en Europe, c'est gravé dans le marbre jusqu'à ce qu'on peut appeler entre